Democracy.
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 La France, c'est ce que l'on appelle une république démocratique.
Où est la démocratie, mes chers collègues?
Non, la France n'est plus une démocratie, là, on fait tous semblant.
C'est, encore une fois, surtout un régime en perdition.
Je gueule, je pourrais gueuler dans qu'une imponée, ce serait pareil.
Révolte! La République, c'est moi!
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai envie de péter un abribus tous les jours.
Je pense que nous sommes en train de traverser la crise démocratique la plus grave que la France ait connue.
Une réforme des retraites maintenue envers et contre tous.
Un déferlement de 49-3.
La chaise vide de Matignon pendant la trêve olympique.
La France, pays des droits de l'homme, est qualifiée de démocratie défaillante.
Mais qu'en est-il vraiment?
Les gouvernements cultivent la politique de l'autruche face aux mobilisations.
Pendant que la répression policière étouffe la voix du peuple.
Contraints de trouver d'autres modes d'action, les militants écologistes désobéissent pour se faire entendre.
La défiance des citoyens envers ses représentants fait la courte échelle aux théories du complot.
Le monde politique, qui dresse barrières et obstacles aux femmes, demeure un royaume masculin.
Alors, manifester sert-il encore à quelque chose?
La désobéissance civile est-elle le dernier recours du peuple pour sauver la planète?
Une démocratie sans maintien de l'ordre est-elle imaginable?
Comment le complotisme attise-t-il le chaos politique?
Pourquoi les institutions démocratiques ferment-elles leurs portes aux femmes?
Immersion dans les entrailles de notre démocratie pour en comprendre les dérives.
Démocrache, une série documentaire en 5 épisodes, réalisée par les étudiants et étudiantes en journalisme de Sciences Po Rennes.
En 1945, en Ille-et-Vilaine, Germaine Marquet devient l'une des premières femmes élue maire. 1974, Arlette Laguillé marque l'histoire comme la première candidate à l'élection présidentielle. 1991, on hésite encore. Doit-on dire Madame la Première Ministre pour Edith Cresson? 2022, Yaël Braun-Pivet accède au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais une question demeure, quand les femmes en politique dépasseront-elles enfin le stade des premières fois?
Je suis pas une poule, hein, c'est bon?
Magnifique question de Laurent Ruquier. Mais vous, Madame Pécresse, avec qui vous avez couché pour en arriver là?
Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée.
Elle représente 52% de la population française. Pourtant, pendant près d'un siècle, la vie politique ne fonctionnait qu'au travers des idées masculines. Quand la moitié d'un peuple n'est ni écoutée, ni représentée, peut-on vraiment parler de démocratie?
Aujourd'hui, les femmes sont encore minoritaires dans les instances du pouvoir. 36% sont députés, seulement 20% sont maires. Tel est le constat.
Alors, comment cette mauvaise représentation impacte-t-elle notre démocratie?
À la recherche des femmes, dans cet empire masculin qu'est la politique,
vous écoutez Sans état d'âme, un épisode présenté par Camille Curnier
et Lynne Baudrier.
Pour la première fois depuis 9 ans, le peuple français a fait entendre sa voix. Pour la première fois depuis toujours, ce cœur de 20 millions de voix comportait voix d'homme et voix de femme.
Reflétant des débats enflammés et des sentiments contradictoires, la marche vers l'égalité politique entre hommes et femmes n'a jamais été un long fleuve tranquille. En 1944, c'est enfin au tour des Françaises de se voir offrir le droit de vote. Le suffrage n'est plus seulement masculin, mais devient réellement universel. Il aura fallu attendre 96 ans pour que les hommes politiques daignent leur accorder un peu de pouvoir.
Ordonnance du 21 avril 1944, article 17. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes.
Écrit noir sur blanc, ces mots ne laissent plus de place au doute. Voter oui, mais accéder au pouvoir est une autre histoire. La sociologue Janine Mauzus-Laveau, chercheuse au CEVIPOF, un laboratoire de recherche de Sciences Po Paris, nous a ouvert la porte de chez elle pour en discuter.
L'ensemble de la classe politique n'est pas enthousiaste à l'idée de leur donner de plus en plus de place. Si vous avez un homme politique qui est là depuis, 10 ans, et puis que le parti décide de présenter beaucoup plus de femmes, le mec, il va pas accueillir à bras ouverts en disant « oui, je lui laisse ma place, j'ai chauffé la place depuis 10 ans, je vais bien sûr lui donner avec le plus grand plaisir, et puis je vais aller planter mes choux ailleurs ».
On l'aura compris, tant que les hommes ne leur ouvrent pas la porte, les femmes peinent à se frayer un chemin. Ce qui semblait être enfin considéré comme un droit fondamental en démocratie s'est peu à peu transformé en sujet de controverse. La femme n'est perçue que par son genre, son ventre, sa maternité, bref, être une femme à cette époque, c'est avant tout être mère. On la préfère à la maison plutôt qu'en politique, on l'estime à la cuisine plutôt que dans l'hémicycle. Ces codes masculins obligent les femmes à se contorsionner pour entrer dans un moule qui n'est pas façonné pour elles.
C'est les hommes qui ont commencé à créer le système et le mode de fonctionnement. Et ils travaillent la journée, donc les réunions, c'est le soir, c'est le week-end. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes, qui d'ailleurs travaillent aussi, mais rentrent s'occuper des enfants, de la maison et le week-end, ben, pareil, c'est compliqué de participer, de pouvoir avoir un rôle politique effectif, important. C'est une activité qui a été pensée au départ, puisqu'elle était exercée que par des hommes, ben, pour des hommes.
Dans la cour du palais, Monsieur Édouard Herriot, président du Parti radical. Monsieur Louis Marin. Et puis des femmes, des communistes et des socialistes.
Et puis des femmes. Voilà comment étaient présentées en 1945 les 33 premières femmes élues députées. Dans les années 60, après 16 ans d'éligibilité, les femmes n'occupent que 2% des sièges à l'Assemblée nationale. Le changement est lent. Beaucoup d'élus rechignent encore à accepter leurs collègues féminines. Et puis il y a ceux qui surfent sur la vague pour soigner leur image.
En 67, Mitterrand voulait apparaître comme le candidat qui présentait des femmes. Donc pour les élections de 1967, il avait décidé, parce qu'il fallait changer l'image, il fallait montrer qu'on bougeait et tout, de présenter dans certaines circonscriptions des jeunes femmes. Mais ils les ont présentées dans des circonscriptions ingagnables. Donc les circonscriptions perdues d'avance, on y envoyait directement les femmes.
Cette manœuvre politique, utilisée par l'ancien président socialiste, s'appelle la falaise de verre. En période de crise, les partis ont tendance à envoyer les femmes au casse-pipe. On leur donne des postes habituellement inaccessibles et la plupart sont voués à l'échec. La falaise de verre, c'est aussi ce qui a caractérisé l'élection présidentielle de 2022. Le Parti socialiste et les Républicains nomment Anne Hidalgo et Valérie Pécresse en tête de liste. Aucune chance de gagner, les deux candidates font un score particulièrement faible. Mais revenons un peu en arrière. Puisque jusque dans les années 90, il n'était pas aussi facile de présenter des femmes aux élections. Le bilan est clair, les femmes sont sous-représentées et la lutte féministe s'empare du sujet.
Là, il fallait qu'il y ait une obligation et une loi contraignante, c'est-à-dire une loi avec des pénalités si elle n'était pas respectée.
Alors, en 1992, Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall publient « Au pouvoir citoyenne, liberté, égalité, parité ». Un livre choc. Pour la première fois, le terme de parité est proposé au grand public. Bon nombre d'hommes politiques accusent le coup. Si la présence des femmes dans cette arène est en léger progrès, pour la droite et le centre, ce n'est pas une priorité. L'idée suscite pourtant très vite l'engouement des femmes. Des associations se créent, d'autres se réactivent, et nombreuses sont les militantes qui se rallient à la cause avec pour seul but la parité. Assurer aux femmes le même nombre de sièges qu'aux hommes dans les institutions, c'est ce qu'on appelle la parité. En 1996, deux femmes marquent cette lutte. Roselyne Bachelot, alors membre du Rassemblement pour la République, et Gisèle Halimi, célèbre avocate. Ensemble, elles se font porte-parole de ce combat politique.
Article 3 de la Constitution de 1999. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Mairie, conseils départementaux, Sénat ou Parlement européen, sur les listes, les partis politiques doivent faire moitié-moitié. Cette loi parité, Solène Lemonnier, conseillère municipale à Béric, dans le Morbihan, en a profité. Pourtant, aujourd'hui, elle regrette que cette évidence d'égalité n'aille pas de soi.
Je pense qu'il est dommage de devoir passer par une loi et de devoir imposer que les femmes s'engagent. Le fait de devoir l'imposer pose un souci, parce qu'une fois que c'est imposé, c'est une contrainte. Et ensuite, énormément de femmes qui sont entrées au niveau local se sentent femmes quota.
Pour beaucoup d'hommes déjà bien installés en politique, il a fallu apprendre à faire de la place sur les listes électorales. En quelque sorte, on leur a forcé la main. Mais voilà le hic.
au lieu de chercher des femmes pour leurs compétences, on les choisissait parfois juste parce qu'elles étaient des femmes. Résultat, une mesure censée promouvoir l'égalité a parfois produit l'inverse, et certaines femmes se sont alors retrouvées étiquetées comme des femmes quotas. Et puis, pour s'assurer que la parité soit respectée, des sanctions sont prévues. Les partis qui présentent alors moins de femmes que d'hommes peuvent dire adieu aux aides financières de l'État. Une bonne idée sur le papier, même si certains achètent le droit de contourner la loi, et ça, c'est tout sauf une avancée. C'est ce qu'explique Gisèle Halimi en 2009.
Il suffit d'être un parti riche, comme l'UMP par exemple. L'UMP a payé 5 millions d'euros d'amende, en prenant, parce qu'il n'a pas respecté la parité. C'est-à-dire, c'est même un peu irréel. Voilà ceux qui font la loi, qui disent « je paye ». Je me paye des candidats hommes, même si la loi m'a dit qu'il fallait des candidats femmes, et vous n'avez rien à dire.
24 ans après l'instauration de ces amendes, la facture est salée. En 2024, le parti Les Républicains, le Parti Socialiste, Horizon ou encore le Rassemblement National ont tous mis la main à la poche pour contourner la parité. Les pénalités prouvent leur raison d'être, mais illustrent tout de même une absence d'évolution. L'idée de parité a encore du chemin à parcourir.
Faire des lois, c'est bien, mais aller faire un constat une fois que la loi est appliquée pour voir si elle fonctionne, s'il n'y a pas d'ajustement, je pense que c'est essentiel et aujourd'hui, il y aurait réellement une nécessité à le faire.
La parité est loin d'être imposée partout. 208 femmes sur les 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale, c'est bien moins que la moitié. Les partis politiques accusent l'urgence législative de juillet dernier. Une campagne éclair à mener, disent-ils, et donc pas le temps de se préoccuper des femmes. Défaillance dans le cœur du réacteur, bien loin d'être paritaire, l'hémicycle enraye les rouages démocratiques.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés.
Nommé le 27 septembre 2024, le gouvernement Barnier est un cas d'école. Sur les ministres, seules 8 femmes ont été nommées, sans qu'aucune d'entre elles n'occupe de portefeuille régalien. Reflétant nos vieux travers historiques, les femmes continuent d'être cantonnées à des fonctions considérées comme moins stratégiques et souvent associées à des ministères dits féminins, comme l'éducation, la santé ou la culture. Une situation vécue à toutes les échelles du pouvoir démocratique.
Il y a ce petit côté un peu protecteur où on va essayer de faire plaisir et on va se dire c'est là qu'elle va s'épanouir, donc c'est là que je vais la mettre. Sans forcément poser la question de savoir si c'est vrai. Moi, je me suis retrouvée dans cette situation, comme beaucoup de mes collègues. On m'a placée à la jeunesse tout de suite, aux affaires scolaires. Mes collègues hommes étaient aux travaux. Et c'est assez compliqué parce que moi, j'arrive, je suis jeune, je suis moderne, je suis à 10 000 km de penser que ça allait poser problème que je sois une femme.
Le vrai problème, ce n'est pas d'être une femme, mais plutôt la façon dont elles sont considérées par l'autre sexe. De peur qu'elles soient moins compétentes ou moins pertinentes, les hommes politiques ont cette fâcheuse tendance à les discréditer.
C'est déjà arrivé que je dise quelque chose, on va me reprendre et puis me reprocher ce que j'ai dit, et puis un homme va reformuler exactement ce que je viens de dire, et là ça passe.
Imaginez, on vous coupe la parole, on reformule vos idées d'un ton condescendant, ou pire, on vous les vole. Le féminisme anglo-saxon appelle ça le man-interrupting ou le mansplaining. Le milieu politique est censé être celui du débat démocratique où chacun, chacune peut s'exprimer librement. Mais aujourd'hui, il reste surtout le terrain du pouvoir et des rapports de domination. Alors dans un espace aussi hostile, avant que cela ne change, ce sont les femmes qui s'adaptent.
On a encore cette étape à franchir de se faire accepter. D'être légitime à exercer le mandat, quel que soit le mandat, et surtout... C'est compliqué de faire accepter qu'on a, nous aussi, des compétences, puis de faire accepter aussi qu'on puisse jouer un rôle. Certaines ont du mal à s'imposer et vont choisir la démission. D'autres vont réussir à s'imposer, mais souvent, malheureusement, pour s'imposer, elles vont utiliser les codes des hommes qu'elles reprochent justement d'utiliser.
Take out GCB. Something's happened to me.
Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez Sans état d'âme, épisode 5 de la série Démocrash, réalisée par les étudiants et étudiantes en master journalisme de Sciences Po Rennes. Dans les allées du Palais Bourbon, les bustes féminins se font rares. Ici, seuls les hommes ont le droit à leur statue. Pourtant, certains sont inconnus au bataillon. À l'exception de nombreuses allégories de Marianne, aucune femme renommée n'a reçu un tel hommage. Il a fallu attendre 2016 pour que le visage d'Olympe de Gouges fasse son entrée sur les murs de l'Assemblée nationale. À quelques pas de là, nous sommes allés rencontrer une ancienne collaboratrice parlementaire. Fiona Texer, fondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, connaît bien ces couloirs.
Quand vous demandez à quelqu'un, imaginez ce que c'est un élu. La personne en face de vous va spontanément avoir une image qui va représenter un homme plutôt 50-60 ans, plutôt blanc, plutôt en costume avec éventuellement une cravate, plutôt avec une grosse voix et des grosses mains qui va serrer des grosses paluches. Et ça, c'est pas caricatural de le dire, parce qu'en fait, ça, c'est le portrait robot d'un élu aujourd'hui. Et on valorise celui qui aura la poignée de main facile et celui qui sera tribun. Il n'y a même pas de féminin pour tribun dans notre langue.
La masculinité hégémonique, c'est l'idéalisation d'une représentation stéréotypée de ce que doit être un homme. Force, assurance, dominance vont alors créer un environnement politique viril auquel les femmes doivent s'assimiler. Chacune y développe sa propre stratégie d'adaptation, et si une minorité choisit d'affirmer son identité féminine, les autres, au contraire, s'adaptent au code du milieu.
Je sais pas, Angela Merkel ou Margaret Thatcher, par exemple, on ne peut pas dire que ce sont des femmes qui incarnent une vision du féminisme en politique. Elles incarnent comment une femme réussit à conquérir le pouvoir comme un homme, en fait.
Il y a des noms de parlementaires qui circulaient entre collaboratrices parce qu'on savait qu'il fallait pas prendre l'ascenseur avec eux.
Parce qu'il se passait quoi ?
Parce qu'il y avait un risque qu'ils vous collent une main aux fesses, qu'il y avait eu des histoires.
Les violences sexistes et sexuelles s'immiscent dans toutes les strates de la société et la politique n'échappe pas au virus. L'étude de 2021 du collectif Élu Local le montre bien. Sur 1000 femmes élues interrogées, 74% ont déjà vécu ce type de violence au cours de leur mandat. Et ces comportements ne datent pas d'hier. Depuis 1945, le sexisme structure les relations politiques. Ça va de la remarque sur la tenue d'une élue, au harcèlement, jusqu'au viol. Tout l'éventail des violences y passe.
Dans les années 70, Michèle Alliot-Marie s'était fait refouler de l'hémicycle parce qu'elle portait un pantalon. Moi je me suis fait virer d'hémicycle parce qu'une fois j'ai mis un jean. C'est des choses qui n'arrivaient pas à nos collègues masculins. Il y a une passion pour critiquer le vêtement féminin sur tous ses aspects. Et si on en revient à Cécile Duflot, elle est en robe à fleurs, on la critique. Elle est en jean, on la critique. Ça n'est jamais bien, ça n'est jamais comme il faut.
Mais loin de son apparence physique et de cette fameuse robe à fleurs qui a tant fait parler d'elle, Cécile Duflot a aussi dû travailler sur un autre front, sa voix. Moquée et jugée irritante parce que trop aiguë, l'ancienne patronne d'Europe Écologie Les Verts a engagé un spécialiste pour gommer ce qui était présenté par certains comme des défauts d'intonation. Il fallait se conformer à cette stature qu'on attendait d'elle, celle d'une femme d'État, celle d'une femme plus présidentiable. Et si la voix compte autant en politique, c'est parce que certaines sont naturellement plus convaincantes, plus attractives et inspirent puissance et prestige. Mais voilà, aux grandes dames de celles et ceux qui briguent l'Élysée, tout le monde ne joue pas sur la même longueur de corde. Un obstacle de plus qui s'ajoute à un paysage politique déjà peu accueillant. Ce cercle vicieux fait du tort au débat démocratique. Sans femmes dans les institutions, à quoi ressemblerait l'agenda politique ?
On est face à une majorité d'hommes qui sont peu concernés par les problématiques qui, pour eux, sont en gros des sujets de gonzesses. Il y a un problème démocratique qui est fondamental, c'est que les assemblées, que ce soit au niveau local ou national, surreprésentent les hommes. Les problématiques perçues comme féminines, et qui touchent 52% de la population, sont sous-traitées, en fait.
Prenons un exemple récent. Les débats de février 2024 sur la constitutionnalisation de l'IVG au Sénat. Au départ, beaucoup de sénateurs étaient réticents. Il leur a fallu un coup de pouce. Leurs mères, leurs filles ou encore leurs épouses ont su les convaincre de l'importance du sujet. Résultat,
le Sénat a voté pour.
Votant 339 pour 267 contre 50, le Sénat a adopté.
Mais ce sont encore les femmes qui ont dû batailler pour que ce qui les concerne soit pris au sérieux par la gente masculine. Une démonstration parfaite d'une démocratie incomplète.
Parce que la démocratie, elle ne peut pas être achevée tant qu'il n'y aura pas une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Mais c'est l'affaire de la politique comme c'est l'affaire de la société tout entière. Mais là où la politique a une responsabilité particulière, c'est dans son rôle de moteur de la société, de devoir créer un cadre normatif, réglementaire, et même de penser, en fait, où on valorise l'égalité, et en fait d'avoir un effet d'entraînement.
Rennes n'est pas une ville comme les autres. Ici, on dit Madame la maire. C'est suffisamment rare pour être souligné. À la tête de la ville, Nathalie Appéré, qui entame déjà son deuxième mandat, incarne une ascension politique plutôt fluide, sans trop d'embûches. Une exception qui confirme la règle.
On a rendez-vous avec Naomi Sournois.
Je vous laisse la chanter.
Bien sûr.
Je vous accompagne ensuite.
Merci.
Malgré plusieurs tentatives de notre part, impossible de rencontrer Madame Appéré. Alors, c'est dans le bureau de Geneviève Letourneux, élue chargée du droit des femmes et des luttes contre les discriminations pour la ville de Rennes, que nous avons posé notre micro.
De ce que j'ai pu voir de près, par exemple quand Nathalie Appéré a été candidate en 2014, la question du fait qu'elle soit une femme, je ne l'ai entendue nulle part. On ne s'est jamais dit oh, « ça va être un handicap ». Qu'elle ait, par contre, dans son parcours, eu à subir du sexisme, de la misogynie, bah oui, bien sûr.
Nathalie Appéré a connu presque toutes les cases de l'engagement politique local. Conseillère municipale, adjointe au maire, députée, jusqu'à accéder à la place de maire. Une ascension qui témoigne d'une crédibilité forgée sur le terrain au fil des années. Et cette position particulière de femme maire n'est pas anodine. Elle compte, elle marque. Qu'on partage ou non ses idées, Nathalie Appéré incarne un modèle de réussite féminine dans le paysage politique français. Avoir des rôles modèles féminins est essentiel, cela donne des points de repère, ça éveille la curiosité et ça montre aussi que d'autres peuvent réussir dans des métiers souvent perçus comme masculins.
Je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. »
Un message fort qu'Elisabeth Borne, elle aussi, avait défendu dès son discours de nomination. Car c'est exactement ce rôle que la politique et notre démocratie doivent jouer. Inspirer, ouvrir la voie et prouver que la place des femmes est partout.
La démocratie, c'est quand même bien comment on met en œuvre cette égale participation des citoyens et des citoyennes dans ce collectif. Si on ne se pose pas les questions d'égalité, eh bien on risque de creuser les fossés qui existent au sein de la population. Il ne suffit pas d'ouvrir des cadres de participation pour résoudre le fossé démocratique.
Autrement dit, ouvrir davantage la porte pour les femmes en politique ne suffit pas. Il faut pousser le curseur un peu plus loin. À Rennes, ils l'ont mesuré, le temps de parole dans les conseils municipaux est à peu près égal entre femmes et hommes. Une réalité facilitée par la présence d'une femme au poste de maire. Cellule d'alerte contre le harcèlement et les violences sexuelles, consultation citoyenne féminine ou encore aide à la garde d'enfants pour les employés de la mairie, la ville de Rennes se fait bon élève.
Mon credo, c'est que la parité ne suffit pas à garantir l'égalité. Il y a une culture de l'égalité qui doit remplacer la culture de la domination. Et donc c'est aussi pour ça que le féminisme est important, c'est qu'il apporte dans le champ de la politique, de la démocratie, de ce qu'est le pouvoir, de l'exercice du pouvoir, il apporte des questionnements qui sont très utiles quand on se pose la question de la démocratie.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
S'appuyer sur la société civile, notamment militante et féministe, c'est un levier essentiel pour avancer. Les associations peuvent apporter des solutions concrètes et inspirer le politique, parfois déconnecté de la réalité du terrain. Monde associatif et monde politique doivent travailler main dans la main. Mais l'objectif ne s'arrête pas là. Le statut de femme n'est pas garant de la bonne santé démocratique. Ce qu'il nous faut, ce sont des femmes élues, engagées, portées par des valeurs d'égalité, et des hommes capables de reconnaître et de respecter pleinement la contribution des femmes à la vie politique.
Moi, je pense qu'il faut se méfier énormément de l'essentialisation. C'est pas parce que il y a des femmes que ça sera nécessairement ni plus féministe ni plus juste. Donc c'est très dangereux. C'est, les femmes ne sont pas par essence plus douces, plus démocrates.
Claudia Sheinbaum au Mexique,
Atla Thomasdottir en Islande,
Maya Sandu en Moldavie,
Droupadi Murmu en Inde.
En 2024, toutes ces femmes sont présidentes.
Elles sont 36 à être à la tête du pouvoir dans leur pays.
17 sont élues chefs d'État et 19 dirigent un gouvernement.
Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir à compter ces femmes qui ont réussi à se faire une place.
Pourtant, on en est toujours là.
La démocratie en est à un stade déterminant et malgré les avancées, son principe fondamental d'égalité reste à bout de souffle.
Combien de temps faudra-t-il encore pour qu'une femme accède à la présidence en France ?
Si demain, on doit avoir une présidente femme, là tout de suite, dans le visage politique actuel, il y en a très peu qui ressortent du lot. Très très peu, elles sont moins d'une dizaine.
Les Français, ils sont tout à fait favorables, mais une Simone Veil, il n'y en a pas, on n'en trouve pas tous les jours sous le paillasson. Hein.
Je crois que le sujet, ce n'est pas de savoir si on aura une femme présidente de la République, le sujet, c'est de savoir si on aura une femme féministe présidente de la République un jour.
C'était Camille Curnier et Lynne Baudrier dans Sans état d'âme, le dernier épisode de la série documentaire Démocrache, réalisée par les étudiantes et étudiants du Master Journalisme de Sciences Po Rennes.
Les 5 épisodes de cette série sont à retrouver sur le site internet de Canal B.
Dans cet épisode, vous avez pu entendre un témoignage de Valérie Pécresse pour Marie-Claire,
des extraits du journal Les Actualités Françaises de 1945 de Lina,
Michel Barnier et Véronique Massonneau sur LCP,
une interview de Gisèle Halimi sur France 2,
Bernard Larcher et Laurence Rossignol sur Public Sénat,
une interview de Marine Tondelier pour Lina
et un extrait du discours d'investiture d'Elisabeth Borne.
Vous avez peut-être reconnu The Beginning de Claude Mangos,
Respect d'Aretha Franklin,
Fast Forward de Chloé Thévenin,
Awake de Tichot,
Invisible de Sofiane Pamar et NTO,
Flawless My Dear de Chris Bowers
et enfin Brain Sales de Tom Sebums.
Le générique de la série Démocrache est composé d'un extrait de Data Gueule,
d'un épisode de C'est pas sorcier,
d'un discours de Clémentine Autain à l'Assemblée nationale,
d'une interview de Yves Lambert sur RTL,
d'une citation d'Emmanuel Todd dans Ses politiques,
d'épisodes de la série Kaamelott,
d'une célèbre réplique de Mélenchon,
d'une interview de Le Bolloc sur Sud Radio
et de Pierre Rosanvallon pour Quotidien.
Vous avez aussi pu entendre Her Friend's Origin de Rebecca Warrior et La Folia de Vivaldi.
Bonne journée et très bon week-end sur Canal B.